Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Notre voyage littéraire nous emmène cette semaine en République démocratique du Congo. C'est là en effet que se déroule le nouveau roman d'Emmanuel Grand, intitulé Kisanga aux éditions Liana Levy. Une plongée passionnante dans le milieu financier et politique international qui s'arrache l'exploitation des ressources naturelles du pays et dans la province du Katanga en particulier. Espionnage, aventure, suspense, ce récit qui pointe les outrages du mondialisme est aussi un portrait réaliste du peuple congolais éprouvé par les guerres et la misère. Rencontre avec l'auteur, tout juste récompensé par le prix Landerneau Polar 2018. Bonjour Emmanuel Grand.
Bonjour Catherine.
Kisanga, le titre de votre nouveau roman, est le nom fictif d'un prodigieux gisement de cuivre en République démocratique du Congo, convoité par deux entreprises, une française et l'autre chinoise. Une exploitation décisive qui se compte en milliards de dollars et dont l'enjeu a des conséquences non seulement dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Quel a été le déclic de ce sujet ?
J'ai commencé ce livre comme j'ai commencé les autres, c'est-à-dire par le lieu, le choix du lieu, c'est-à-dire que pour celui-ci, j'ai voulu partir loin, larguer les amarres et garder quand même un lien avec la France. Et en fait, je suis parti au tout début en Afrique de l'Ouest et je me suis donc déplacé vers l'Eldorado minier de l'Afrique, qui est le Katanga. Voilà. Donc je suis donc le cheminement a été celui-là.
Et pourquoi la RDC en particulier ? Est-ce aussi parce que ce qui s'y joue depuis plusieurs années déjà est symptomatique d'un état du monde ?
La RDC, moi j'ai besoin aussi que le lieu soit un personnage, c'est-à-dire un personnage dramatique, parce que j'écris des romans policiers. Et donc la RDC est un lieu dramatique, une terre de drame. Et une terre très contrastée, à la fois fascinante par sa richesse, son étendue, ce fleuve interminable et immense, le plus puissant du monde. Et en même temps, donc, cette richesse et cette pauvreté. Et cette histoire terrible, dont malheureusement le peuple congolais n'est pas sorti encore aujourd'hui.
Oui, parce que on voit aussi à travers votre roman à quel point ce Congo RDC est victime de l'avidité mondialiste, grâce en effet à cet Eldorado souterrain, à ces mines prodigieuses, mais c'est également un pays en souffrance depuis longtemps et dont on ne parle peut-être pas suffisamment à l'extérieur.
Probablement, je lisais un article dans l'Economist qui disait que le conflit au Congo, c'était 6 millions de morts, le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale, et qu'effectivement on en parle assez peu. Pourquoi ? Ma foi, je n'en sais rien, vous savez peut-être mieux que moi, je pense que c'est peut-être un territoire qui est éloigné de nous et de nos références peut-être les plus immédiates. Mais en même temps, il est très proche puisque les minerais qui sont récoltés là-bas sont utilisés dans toutes nos appareils au quotidien, donc à la fois proche et lointain. Pour autant, effectivement, on en parle peu. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire.
Donc à travers cette intrigue où vous mettez donc en place ce partenariat entre deux entreprises, je le disais, une française qui se nomme Carmin et l'autre chinoise, ça vous permet aussi de rappeler ou de décrire le rôle et la place de la Chine, de plus en plus invasive sur ce continent africain. Vous écrivez, Emmanuel Grand, un investissement de 120 milliards de dollars par an depuis une décennie, dont 16 milliards dans les mines. C'est un peu inquiétant, non ?
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes. Ma foi, c'est la réalité aujourd'hui. Les Chinois ont pris pied sur l'ensemble du continent, en fait, hein, à beaucoup d'endroits, puisqu'ils sont très demandeurs de ressources naturelles. D'ailleurs, pas que les mines, hein, le pétrole, les ressources agricoles, etc. Et ils ont une approche assez massive, stratégique, de petits pas, à long terme, et très maligne, finalement, puisqu'ils arrivent à... Alors, ils ont aussi des déconvenues, mais ils arrivent à effectivement, placer leurs pions assez bien sur le continent. Et ils sont partout.
Plus que les Français ? Plus que les Américains ? Alors, plus que les Africains.
Alors probablement que les Africains, je n'irai pas jusque là, mais que les Français certainement, que les Américains sont pas mal désengagés quand même de l'Afrique, et je pense encore plus aujourd'hui. Donc oui, j'ai tendance à croire qu'ils sont quand même des acteurs assez majeurs, les investisseurs assez majeurs en Afrique, nouveaux investisseurs, mais probablement investisseurs qui vont durer assez longtemps.
Donc à partir de cette réalité paradoxale, un pays très riche grâce à ses ressources naturelles et en même temps très pauvre parce que ses ressources naturelles, il n'en profite pas, puisque vous racontez comment les mines sont exploitées par beaucoup d'enfants qui gagnent $1 par jour. Donc autant dire que ça entretient une situation extrêmement inquiétante. Donc vous écrivez une fiction, un roman noir à plusieurs ramifications. D'une part, la description de ce monde financier international sans vergogne, sans limite, avec l'aval du monde politique. Et d'autre part, les coulisses d'une opération où se retrouvent des mercenaires sous l'autorité de militaires français pour retrouver un document confidentiel nuisible à l'État français. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est inventé, Emmanuel Grand?
Alors, c'est très difficile de faire la part des choses, en fait. Je dirais que, pour répondre quand même simplement, c'est une fiction, et donc c'est inventé. Voilà. Pour autant, il y a beaucoup de petites parcelles de vérité dedans. Vous citiez les investissements chinois, évidemment, je les ai pas inventés, donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, je pense que, comme beaucoup d'auteurs de polar, j'aime parler du réel et parler dans le réel. Et à ce titre-là, il y a un effort de vraisemblance et de documentation extrêmement forte. Donc il y a beaucoup de choses vraies. Des portions de réel partout, sous forme kaléidoscopique, je dirais. Donc on peut difficilement faire le tri entre les deux. Il y a les deux dans le texte.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain français Emmanuel Grand, invité pour son roman Kisanga, paru aux éditions Liana Levy, qui vient de recevoir, je le rappelle, le prix Landerneau Polar 2018. Un roman, on l'a vu au début de cet entretien, qui prend place essentiellement en République démocratique du Congo, autour d'une mine, Kisanga, donc, qui est un enjeu de lutte entre plusieurs grandes entreprises. Mais maintenant, il faut incarner un peu ce roman, parce que ce qui en fait sa réussite, c'est qu'effectivement, vous construisez ce livre avec des points cardinaux qui chacun sont en effet donc représentés par des personnages très attachants, parce que vous mettez en place cette incroyable machination à plusieurs étages. Et puis, il y a deux grains de sable qui viennent gripper l'affaire, un journaliste et un ingénieur, Raphaël Dacosta et Olivier Martel. Qui sont ces hommes? Et que représente-t-il à vos yeux?
Alors, Raphaël Dacosta, c'est un journaliste, effectivement, qui a enquêté sur une affaire louche concernant Karma, la société minière française, il y a une quinzaine d'années. Et ça lui a valu de se mettre, d'être mis au placard. Parce qu'il s'est rapproché un peu trop près du soleil. Donc, il a été aigri. Et puis, un peu par hasard, il remonte en selle. Et donc c'est quelqu'un qui a effectivement une revanche et qui va avoir envie de résoudre l'affaire qu'il n'avait pas réussi à résoudre 15 ans auparavant. Et puis il y a un deuxième personnage qui est quelqu'un, qui est donc Olivier Martel, c'est un ingénieur qui est employé de la société Carmin. Et il est envoyé sur place, un brillant ingénieur qui n'est pas du tout en opposition.
Non, il va même sur place à Kisanga pour que tout se passe bien.
Ben
pour
oui,
que
voilà,
l'extraction.
Voilà, on l'envoie sur un beau projet et donc il est content d'y aller et donc il pense qu'il va bien faire son boulot. Voilà. Et puis, au fil de ses travaux, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent et que il va se retrouver en fait face à sa conscience. Ce que j'aime bien, moi, c'est d'utiliser des personnages principaux qui sont des personnages assez proches de tout un chacun. Pas des personnages extraordinaires, mais justement, cet Olivier Martel, moi, je dirais, entre guillemets, moi-même et vous et beaucoup de monde, on en a rencontré. C'est quelqu'un qui existe dans la vraie vie. Et donc, ça m'intéresse parce que ça nous interroge, nous, lecteurs, quand les personnages nous ressemblent.
Et puis c'est une façon de souligner aussi peut-être, Emmanuel Grand, qu'il y a aussi des personnes de la société civile, comme on dit, qui peuvent faire changer les choses et que, en l'occurrence, ici, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de législateurs, mais il y a un journaliste et un ingénieur qui, face à des secrets d'État et surtout à un peuple en souffrance, qui décident de mettre leur vie en danger.
Oui, alors c'est vrai que, et puis aussi j'aime bien jouer un peu avec les codes du polar, c'est-à-dire que dans mes 3 livres, il y en a un seul où il y a un couple de flics qui résout une enquête, le second en l'occurrence. Et sinon j'aime bien sortir un peu des antibatteux et des ornières. Donc oui, deux personnes qui en fait sont dont c'est pas le métier finalement, enfin sauf le journaliste qui est un journaliste d'investigation, mais dont c'est pas forcément la vocation d'aller résoudre des enquêtes et qui se retrouvent en fait dans le bain et confrontés à des choix qu'ils n'avaient pas forcément anticipés, et en particulier je pense Olivier Martel. Et oui, ben c'est la vie. Je pense que c'est notre responsabilité à tous de quelque part nous prendre en main dans ce monde. Hein. On le voit, je pense, de plus en plus. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est assez moderne.
Petite parenthèse, la rédaction de Raphaël Dacosta se trouve rue Camille Desmoulins, à Issy-les-Moulineaux, qui se trouve être aussi l'adresse de RFI.
C'est un hasard total, complet.
Aucun complet. Clin d'œil à la place.
Mais je vous ai dit qu'il y avait des petites parcelles de réel.
Et ça peut en être une.
Et ça peut être en effet.
Donc c'est un livre très romanesque, très millimétré, très documenté. Et pourtant, Emmanuel Grand, vous n'êtes pas allé au Congo. Pourquoi ? Ou plus exactement, comment avez-vous travaillé ?
Alors, j'y suis pas allé parce que c'est pas facile pour moi d'un point de vue strictement de l'emploi du temps et de mes...
Vous avez des activités professionnelles par ailleurs.
Je ne suis pas uniquement écrivain. Donc, c'était compliqué. Et donc, j'ai compensé énormément par ce que je dis un peu à la fin du livre. Je dis le voyage auquel je convie le lecteur, je l'ai fait moi-même à travers les livres et les images et la musique. Du coup, j'ai un peu compensé. J'ai même beaucoup compensé. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup de lectures, beaucoup de films et beaucoup de documentation. Un gros travail. Et surtout, ce qui est vraiment de l'ordre de l'expérience et vraiment de l'ordre du réel est également assez ténu. Et je pense que ça, c'est notre job d'écrivain. C'est-à-dire de faire en sorte que on puisse retranscrire quelque chose de vraisemblable. On peut pas vivre la vie de tous nos personnages, en aucun cas. Et donc, il faut rendre vraisemblable ce que l'on n'a pas forcément vu, mais ce que l'on a fréquenté d'une autre manière. Et il y a une documentation fantastique et accessible sur le sujet. Donc,
Mais c'est quand même une situation géopolitique extrêmement complexe.
Oui, tout à fait.
Et là, vous donnez tout de la situation, en effet, politique. On vous suit à Lumbabashi, on vous suit au Katanga, on vous suit dans la savane, on vous suit
sur
avec
le fleuve,
différentes tribus.
Oui, le
avec les conflits entre Hutu et Tutsi, enfin.
Mais je vous dis c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le sujet, hein. Donc.
Mais tout ça avec une fluidité.
Oui, bah c'est
naturel.
Voilà. Oui, encore une fois, le travail de je pense d'écrivain, c'est de rendre extrêmement fluide et naturel quelque chose qui au départ est le produit d'une matière extrêmement complexe et diverse et déstructurée. Donc il faut organiser tout ça et évidemment ne pas perdre de vue que avant tout c'est l'histoire de personnages, c'est une intrigue, c'est
alors une intrigue en effet, mais il y a un personnage qui existe dans la réalité. Il s'agit de Moïse Katumbi, que vous citez à plusieurs reprises et que vous mettez même en scène. Il s'agit de l'ancien gouverneur du Katanga, cette province où se trouve Kisanga, qui a été évincé par le président actuel, qui aujourd'hui vit en exil, qui néanmoins garde toujours une énorme popularité là-bas. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, puisque lui, vous le citez ?
Ben je trouve qu'il l'incarne. Moi, je l'ai découvert dans le documentaire de Thierry Michel, Katanga Business. Il apparaissait, je pense que c'était sur la couverture et même sur quelques... avec un grand Stetson en habit blanc, etc. Donc, je le trouvais intriguant. Et donc, je me suis dit, on dirait un mafieux. Et donc, j'ai regardé et je trouvais qu'il avait un discours. Alors, je dois avouer que j'ai vu qu'il y avait probablement beaucoup de communication aussi. La réalité et le discours ne sont pas forcément faciles à distinguer. Pour autant, c'est quelqu'un effectivement qui est très populaire et qui a un discours qui est celui de la démocratie et de l'avènement de la démocratie et de la restitution du pouvoir à des richesses et de la prospérité à son peuple et de l'autonomie à son peuple. Ce qu'il a réussi à faire dans son bilan quand même en tant que gouverneur, c'est de remettre à flot les finances de la province de manière extrêmement probante.
Donc vous en faites un portrait plutôt enthousiasmant.
Bah moi j'en fais j'aime imaginer que ça pourrait être l'avenir de ce pays. Voilà.
Alors en revanche, vous faites un portrait beaucoup plus nuancé d'autres figures dans le monde politique, par exemple, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle ici Mérieux, qui a une grande crinière blanche, donc qui déplace beaucoup d'air, on peut imaginer quelqu'un. En tout cas, il semblerait que vous avez beaucoup aimé montrer la faille entre l'homme public et l'homme privé, beaucoup moins sympathique, et qu'on voit par exemple, entre parenthèses, violer une jeune femme en abusant de son titre et de son pouvoir. Il y a une jubilation de votre part dans l'écriture de ce personnage?
Alors, j'ai beaucoup aimé travailler ce personnage, parce qu'il est assez... c'est vrai, il est assez abject, mais il est très contrasté, il est à la fois très, très bien mis, très bien élevé, et en même temps... qui a des sorties, des saillies complètement hors de arrière. Donc c'est un vrai méchant. Et c'est très enthousiasmant pour un écrivain de polar, les méchants. Faut pas se cacher la face.
Même s'il y a des nuances, c'est quand même un portrait au vitriol de ces milieux. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, Emmanuel Grand, que par la fiction, vous avez beaucoup plus de latitude qu'un journaliste qui aimerait faire un dossier sur une histoire qui pourrait être similaire? Parce que ici, rien n'est vrai, mais tout est vraisemblable.
Oui, je pense que c'est très différent comme approche. C'est très différent parce que moi, je suis très libre. Je suis très libre à partir du moment où c'est une fiction. Un journaliste n'a pas cette liberté, et de ce fait, il est effectivement le témoin d'une réalité. Il ne peut pas s'accorder les mêmes latitudes que moi. Donc je pense que c'est très différent. C'est vrai que j'adore avoir cette liberté romanesque. Je pense qu'après, effectivement, on interroge le lecteur, on montre des choses qui existent aussi. De ce point de vue-là, peut-être qu'on se rejoint un peu avec le journaliste, mais une approche très très différente.
Alors maintenant que vous vous êtes immergé dans la culture congolaise, est-ce que vous parlez un peu lingala?
Pas du tout.
Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire des Mundele et des Ndombe?
Alors c'est les termes en fait qui désignent les noirs et les blancs simplement. Et donc il y a un personnage effectivement qui est un prédicateur à Goma dans une église et qui est rencontré par Raphaël Lacosta et qui va lui expliquer alors sous une forme un peu allégorique l'histoire de son pays, histoire de drame encore une fois. En deux mots, le Congo démocratique, c'est 100 ans de colonisation, 40 ans de dictature, 20 ans de guerre. Voilà. Et donc, il raconte ça à sa manière.
Alors, j'imagine que prochainement, vous aimeriez bien y aller. Mais est-ce qu'à moyen terme, ce qui serait formidable aussi, c'est d'être lu là-bas, par les Congolais?
Vous savez que... Enfin, non, vous savez. Bien sûr, vous savez, parce que vous êtes à RFI, mais que la première ville francophone du monde, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Lyon, ni Marseille, c'est Kinshasa. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait effectivement assez formidable. Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup, Emmanuel Grand.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Kisanga, qui a donc reçu le prix Landerno Polar 2018 et qui est apparu aux éditions Liana Lévy.
Merci.